Bonjour à chacun. Je vous propose de faire en deux temps, c'est-à-dire dans un premier temps, il y a un passage biblique que j'aimerais bien lire, et puis je vais le lire peut-être environ deux fois comme ça. Après, on va juste faire un court moment de silence. Et puis, ce que vous aurez reçu, chacun va partager, juste voilà, ce, pas forcément, ou comment le dire, plutôt en disant voilà cette parole, voici ce que ça déclenche en moi, voici ce que Dieu m'encourage à faire au travers de cette parole. Donc, c'est un passage qu'on connaît très bien, c'est dans Matthieu 6. Et puis, ouais. Et donc, quand on aura fini ça, après, il y aura un moment où moi, je vais continuer pendant quelques minutes. Dans Matthieu 6, à partir du verset 25 jusqu'au verset 34. Donc, je lis dans cette version qui est second 21 et je vous propose juste de l'accueillir, de laisser cette parole vous parler. La deuxième fois, je lirai peut-être un peu plus lentement. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez ou boirez, de ce que vous mangerez pour votre vie, ni de ce dont vous habillerez votre corps. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture? Et le corps plus que le vêtement, regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment pas et ne moissonnent pas. Ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un instant à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Étudiez comment poussent les lys, ou excusez, comment poussent les plus belles fleurs des champs. Elles ne travaillent pas et ne tissent pas. Cependant, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas eu d'aussi belle tenue que l'une d'elles. Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, ne le fera-t-il pas bien plus volontiers pour vous, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, avec quoi nous habillerons-nous. En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples qui les recherchent. Or, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Et tout cela vous sera donné en plus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. Chaque jour suffit sa peine. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez et boirez pour votre vie, ni de ce dont vous habillerez votre corps. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment pas et ne moissonnent pas. Ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux. Et de vous, par ces inquiétudes, peut ajouter un instant à la durée de sa vie. Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Étudiez comment poussent les plus belles fleurs des champs. Étudiez comment poussent les plus belles fleurs des champs. Elles ne travaillent pas et ne tissent pas. Cependant, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas eu d'aussi belle tenue que l'une d'elles. Si Dieu habille ainsi des herbes qui existent aujourd'hui et qui demain, si Dieu habille ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, ne le fera-t-il pas bien plus volontiers pour vous, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? Avec quoi nous habillerons-nous? Je vous invite maintenant juste à peut-être 2 minutes comme ça où on va rester silencieux et après, il y aura juste un petit moment où chacun peut dire ce passage, Dieu m'invite à faire ça ou me parle de cette manière. C'est quelque part gravé. Ouais, en moi, il y avait un moment où je faisais tellement de soucis, j'étais à une transition dans ma vie et puis je ne savais pas que j'avais autant peur, mais c'est là, un jour Dieu me donnait ce passage et puis ça me travaillait, j'étais même encore à l'école biblique et puis c'était au point où je le connaissais par cœur. Et je vais à un examen d'hébreu, et c'est le même texte qui est donné donc pour la traduction. Donc là, je n'ai pas traduit depuis l'hébreu, mais je l'ai écrit depuis la tête parce que je l'avais déjà ruminé, travaillé. Donc ça m'a donné aussi une bonne note ce texte. Et puis tout récemment, j'étais à un, c'était 24 heures, on avait fait avec un groupe de silence, on mangeait, on parlait, hein, mais on faisait des temps de silence comme j'ai fait avec vous là autour de la parole de Dieu et puis un temps de silence plus long. Et je pense que ça devait être ce passage ou un autre, mais je me souviens plus. Probablement celui-ci. Et quelque chose est devenu clair pour moi parce que avec tous ces gens en silence, en rond, en cercle, là, j'entendais bien comment je respirais. J'entendais. Et tout à coup, il y avait eu cette pensée. En gros, le souffle, il est même question dans ce passage, hein. Personne ne peut prolonger son souffle ou sa vie par ses inquiétudes. Et je me rendais compte que à chaque expiration, ou plutôt à chaque inspiration, je vais chercher de l'air qui est là, juste, j'ai rien fait pour, mais il y a un stock assez grand et je prends juste ce dont j'ai besoin. Mais je ne dis pas, je vais stocker l'air au cas où il y aura plus d'air dehors. Même ça dont j'ai besoin pour vivre, continuellement là, si il y a plus d'oxygène dans cette salle, ben, c'est gift, on ne pourra plus vivre. Même ça, mais le plus basique, le plus important, je n'arrive pas à stocker. Mais je vais faire le stock pour tout plein d'autres choses, pour ma santé, pour la nourriture, pour telle autre. Et c'était tellement humiliant pour moi de me rendre compte. Même les trucs les plus simples, je dois faire confiance que Dieu a assez de réserves d'air pour que la prochaine fois où je vais inspirer, il y ait assez d'air. C'est pas que je le réfléchis, mais instinctivement, c'est comme ça, en fait. Ce dont j'ai le plus besoin pour vivre, mon organisme arrive à faire confiance même s'il ne sait pas. Et je pense que c'est la nourriture que je dois me battre. C'est vrai, en Suisse, c'est très peu de gens qui ont le problème là avec la nourriture, mais on l'a déplacé vers d'autres domaines, plutôt les assurances ou telle autre chose. Et puis je me dis, mais bon. Donc voilà, c'était humiliant pour moi et je dois m'humilier aussi devant Dieu, comme plusieurs l'ont dit, de toutes ces fois où elle peut pas, je méprise mon Père Céleste en me disant, mais écoute, je dois faire quelque chose parce que je ne sais pas comment tu réagiras demain. chez moi, on dit, il faut apporter jusqu'au genou et puis Dieu t'aidera à porter à la tête. Donc, c'est-à-dire, tu dois t'occuper de ta vie, on ne sait jamais, en gros. Et puis, ces idées s'inscrivent en moi, en nous, juste généralement comme ça. Et puis, c'est des passages un peu détox, au fait, qui nous aident à nous désintoxiquer de tout ce qu'on a avalé dans notre culture de peur, de... Donc voilà, Dieu pourvoit à votre oxygène, il peut pourvoir tout plein d'autres choses. Et puis je vais vous inviter maintenant à, comme dans un, on va comme faire un voyage vers le temps de la création et imaginez que vous participez à ces scènes-là que je vais décrire où tout à coup Dieu dit, mais nous allons créer l'homme à notre image. Et puis il est dit, l'Éternel Dieu, Genèse 2, verset 7, l'Éternel Dieu façonna l'homme de la poussière de la terre, il lui insuffla dans les narines le souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. L'Éternel Dieu planta un jardin vers l'Orient, l'Éden, le pays des délices. Il y plaça l'homme qu'il avait façonné. L'Éternel Dieu fit pousser du sol toutes sortes d'arbres, portant des fruits d'aspect agréable et délicieux. Et il y mit l'arbre de vie. Et puis, j'imagine, durant la fête d'installation où Dieu plaça l'homme, ça doit être au verset 15, hein, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin. Adam a certainement été rempli d'émotions de voir tout ce que Dieu a fait durant 6 jours et Dieu l'installe, tu es le gérant de ça. Tout t'appartient. Tout ça, j'ai fait pour toi. Peut-être il regarde au ciel, il dit, mais bon, c'est immense, mais c'est pour toi. Il regarde, peut-être il y avait une mer à côté, je ne sais pas, mais c'est énorme, mais tu es responsable sur tout ça. Une telle émotion, Adam se dit, mais est-ce que l'homme, au fait, je mets dans sa bouche ces paroles du psalmiste, psaume 8, qu'est-ce que je suis pour autant d'attention? Et c'est comme si ça ne suffisait pas. Je ne sais pas si Dieu faisait un monologue où il dit, probablement à cette fête d'installation ou quelque temps plus tard, je ne sais pas, mais Genèse 2, verset 18, il est dit, ben, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide, il soit son vis-à-vis. Adam ne savait même pas qu'il avait besoin d'un vis-à-vis et puis tu fais tout ce que Dieu a fait déjà, extraordinaire. Peut-être un monologue ou peut-être Dieu dit à haute voix, est-ce que Adam a entendu cette parole? Et puis, la parole de Dieu est quand même lancée. Et puis, on va dire, je me suis dit, mais comment Dieu va s'y prendre? Genèse 2, verset 19 à 24, il est dit, l'Éternel Dieu prit l'homme, l'Éternel Dieu qui avait façonné l'homme du sol. Excusez-moi. L'Éternel Dieu, qui avait façonné du sol tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, les fit venir vers l'homme pour voir comment il les nommerait, afin que tout être vivant porte le nom que l'homme lui donnerait. L'homme donna donc un nom à tous les animaux domestiques. Pour les oiseaux du ciel et aux animaux sauvages, mais il ne trouva pas d'aide qui soit son vis-à-vis. Alors l'Éternel Dieu plongea l'homme dans un profond sommeil. Pendant que celui-ci dormait, il y prit une de ses côtes et referma la chair à la place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise. de l'homme et il l'amena vers l'homme. Lors, l'homme s'écria, voici bien cette fois celle qui est os de mes os, chair de ma chair. On la nommera femme car elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux ne feront plus qu'un. J'aime comment Dieu procède. En gros, il y a la phrase de départ, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et vous, si vous avez dit une phrase comme ça, comment vous auriez procédé? Je ne sais même pas comment j'aurais procédé. Mais Dieu envoie l'homme en mission, en gros. Après avoir dit ça, Dieu l'envoie en mission pour nommer les animaux. Et alors que l'homme était en mission, quelque chose va se passer chez lui. C'est comme s'il y aura eu un déclic, parce que jusque-là, dans le jardin, Adam n'avait encore probablement pas remarqué qu'il était seul. Et alors qu'il nommait les animaux, où il y a eu un moment, je ne sais pas si c'était une tristesse profonde, un soupir, mais les animaux sont quand même deux par deux, et moi, je suis tout seul. C'est ce que je vais appeler, c'est comme les prototypes de prière. Quelque chose va, un mouvement profond part du cœur d'Adam. Puis, il va dire, probablement en d'autres mots, ce que Dieu a dit quelque part, à quelques passages plus tôt. Quand Dieu avait dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, Dieu ne l'a pas forcé pour dire, maintenant que j'ai vu que tu es seul, je te rends la solution, je résous ton problème. Il n'était pas conscient du problème. J'ai aucun problème, Dieu. Et puis tout à coup, il dit, mais même les animaux sont deux par deux et moi, je suis seul. Et c'est comme si ce moment-là, que j'appelle la prière, ce qui est déjà vrai dans le monde de Dieu, dans la pensée de Dieu, devient un besoin dans le cœur d'Adam. Mais on va même d'aller plus loin, on va voir que chacun de nous, on mange. Probablement que vous avez même mangé ce matin avant de venir ici. Et chacun de nous boit. Puis ça, l'homme n'a jamais demandé à Dieu, je veux manger. Avant même qu'il soit créé ou sa création, Dieu a déjà dit, voilà, je crée l'homme, il va manger toute plante verte. Enfin, Dieu a placé un jardin, mis des fruits dedans et dit, il faut manger. Et quand Dieu a dit cela, sa parole, en gros, a créé littéralement la faim chez l'homme. La promesse de Dieu nourrit la faim ou la soif de l'homme. Et puis, quand ils auront eu faim pour la première fois, le repas était déjà là. Ils vont dire, mais il a déjà tout préparé. Puis, on le place maintenant dans ce domaine qui est un peu plus abstrait que le repas et on prend et on mange. Mais il y a quand même un principe clé là que je dis, tous nos besoins ou chacun de nos besoins légitimes ont été créés en nous par une promesse de Dieu. Vous avez faim, vous avez soif. C'est pas vous qui l'avez créé. C'est Dieu qui a créé la faim en vous. Et on peut même aller jusqu'à dire, nos besoins sont comme des faims que Dieu crée en nous. Sauf, juste là, je mets juste une petite parenthèse. Nous vivons dans un monde dépravé, détruit, ruiné de l'intérieur, de plus ses valeurs. Donc, Satan, sachant cela, ce qu'il fait, lui ne crée pas forcément de besoins en nous, mais il va essayer de détériorer, de dépraver ses besoins. Je vous donne un exemple. Nous, il y a quelques années en arrière, ça devrait être en 2019 ou je sais plus. Sauf que la voiture qu'on avait à l'époque tombait en panne et puis les réparations devaient coûter beaucoup plus cher et on devait réparer pour 1200, mais le garagiste nous disait c'est pas sûr que ça va tenir beaucoup plus longtemps non plus. Et puis, moi, j'ai saisi cette occasion. Je me suis dit, OK, peut-être on va acheter une nouvelle voiture. Et j'ai dit à Gabi, tu sais, une des voitures que j'aime bien, alors, voilà, c'est Hyundai Tucson. OK, c'est bien. Il y avait même un garage à Vienne qui vend cette voiture. Et puis, quand je passais par là, à l'époque, mes chemins passaient un peu plus devant ce garage, je ne sais pas pourquoi. Mais quand je passais par là, je ne sais pas toutes les prières qu'il y avait dans mon cœur. Mais Gabi dit, écoute, avec notre budget, on peut au mieux une Dacia. J'ai dit, Dacia, non, moi, Dacia, j'aime pas Dacia. Ok. Alors, j'ai dit ça pour quoi? Le mouvement, le besoin de se déplacer, c'est pas moi qui l'ai créé. Dieu m'a donné des pieds, en gros, et je me déplace. Aujourd'hui, les distances sont plus grandes. Nous utilisons d'autres moyens, vélo, scooter ou voiture. Mais l'ennemi peut utiliser ce même besoin, qui est un besoin légitime, d'avoir un moyen de déplacement pour charger ça de tout plein de sens culturel. La voiture ne devient plus seulement le moyen de se déplacer, mais un statut social. Plus tu as ça, on va, et ainsi de suite. Donc, vous voyez un besoin légitime, comment ça a été détourné, et déformé. En gros, je n'ai pas eu ma Hyundai Tucson. Et puis c'est bien. Entre-temps, je lisais un passage biblique. L'Éternel regarde au cœur, l'homme voit tout ce qui frappe à l'œil. C'était pas de Dacia à ce passage parlait. Mais Dieu l'a utilisé tellement à l'époque pour me dire, écoute, j'ai dit, Seigneur, je comprends, je sais exactement. Je rentre, j'ai dit à Gabi, OK, alors, je pense qu'on va quand même devoir prendre notre Dacia. Et depuis 6 ans, ou je ne sais pas, on est tellement content parce qu'il y a beaucoup de place. Des fois, on déplace des trucs, on va en vacances. Je dis, mais bon, merci Seigneur parce qu'on a la Dacia. Donc, nos besoins légitimes, tout besoin en nous légitime est un besoin créé par Dieu, placé en nous. Mais comme il fait, c'est extraordinaire. Comme il a envoyé Adam en mission, et c'est alors qu'il s'occupait des choses de Dieu, que Adam se rend compte de son propre besoin. Mais des fois, nous, on a envie de tourner autour de notre besoin jusqu'à ce que ça ne sert pas à grand-chose. Et là, ce principe-là va être dit plus tard. Dans le passage qu'on a lu dans Matthieu 6, il est dit, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Le père d'Adam sait qu'il avait besoin, en fait, hein, de ne pas être tout seul dans ce jardin. Votre père sait que vous en avez besoin. Et ça conduit à la prière. Et cette prière est comme un mouvement, comme une transaction spirituelle. C'est pas forcément que des mots, mais c'est des mouvements de notre intérieur qui disent à Dieu, mais. Et c'est là on se rend compte, en réalité, tout ce que nous, on pensait Dieu sera surpris, c'est quelque chose qu'il avait déjà préparé, il avait déjà la solution, il attendait simplement que ça devienne quelque chose dont on est conscient, qu'on peut lui en parler. Il dit, mon fils, ma fille, maintenant que tu dis, voilà la solution, elle. Et ça crée quelque chose que je vais appeler le miraculeux. Alors que Adam soupira en lui ou... Je sais pas où dit, mais je suis seul, alors que les animaux sont deux par deux. Dieu fait quelque chose que Adam ne pouvait pas faire. Adam ne pouvait pas s'opérer, et encore moins de savoir que en lui-même était déjà la solution. Il y a une côte qui était chez Adam. Il ne pouvait pas aller enlever sa côte, même s'il peut le faire. Ça va rester une côte. Une côte sèche après. Il ne pourra pas faire grand-chose de ça. Le miraculeux se produit. Hein? Ce qui est déjà vrai dans la pensée de Dieu, ce qui est déjà dans le cœur de Dieu depuis toujours, l'homme dans son cœur saisit cette promesse et la porte à Dieu. Alors Dieu fait ce que l'homme, lui, ne pouvait pas faire. Dieu le plonge dans un sommeil et puis il enlève une côte et de ça forme le vis-à-vis, la vis-à-vis dont Adam avait besoin. Et donc, quand Adam parle de son besoin, Dieu, bien sûr, n'était pas surpris. Au contraire, il s'est senti engagé, car c'est lui qui a créé ce besoin dans le cœur d'Adam. Et je vais m'arrêter juste un peu là pour dire combien puissant ce sera quand l'Église prie les promesses de Dieu, prie la parole de Dieu, prie ce qui est sur le cœur de Dieu. Et puis, peut-être, ça m'amène souvent maintenant quand je me retrouve dans une situation où tout à coup je sais comment la solution doit être, je dis stop. D'abord, on va demander à Dieu quelle est la promesse déjà engagée au ciel vis-à-vis de ce le besoin que je rencontre. Parce que si je me mets à prier ce que Dieu prie, on sera déjà deux. Et Dieu travaille souvent avec des témoins, deux ou trois témoins. Lui va dire, je suis le premier témoin, toi tu es le deuxième. Alors on fait chemin ensemble, en fait. Donc lui, il a déjà ça déclaré comme vrai. Ah, moi, je dis ça pour dire, ah, voilà ce qui se passe actuellement. OK. Ce que Dieu est en train de faire, et puis je commence à dire, Seigneur, ce que tu es en train de faire, je veux la même chose. Je veux la même chose. Donc, voilà un peu cet aspect. Oui. Peut-être ça m'arrête. Je m'arrête aussi un peu pour ce qui a été puissant pour moi quand je me plongeais dans ces passages de Genèse il y a quelque temps en arrière, c'est de me rendre compte. Adam ne pouvait jamais imaginer que la solution de Dieu était en lui quelque part. Et c'est devenu comme une source d'un énorme espoir pour moi. N'importe quelle situation qu'un être humain peut se retrouver sur cette terre, aussi fragile qu'il peut se sentir, Dieu laisse toujours encore en lui des bribes ou une côte qui servira pour la solution. Dieu a déjà placé la solution, les sources de solution en nous. Donc, peu importe combien bas ou combien profond, sale, combien désespéré, non. Il y a toujours une lumière d'espoir que Dieu, c'est pas ailleurs, comme Job disait, c'est mes propres yeux qui le verront, en fait. Peu importe la noirceur du désespoir, la lueur est là, la côte est en Adam, en fait. Et Dieu place des sources de solutions à nous. Vous êtes une solution ambiante pour ce monde, une solution en déplacement pour les difficultés que vous rencontrez ou que le monde rencontre. Puis actuellement, je ne savais pas que j'étais autant européen dans mon cœur, mais ce qui se passe au niveau géopolitique actuellement, je me suis arrêté, j'ai dit à Dieu, Seigneur, faut que tu m'expliques quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Et je sentais comme, c'est comme si je représentais l'Europe et je sentais combien je me sentais humilié. Et comme une honte ou une trahison dans ce que l'Europe vit actuellement ou le monde vit actuellement. Mais quand je me plaçais du côté européen, j'ai dit, mais, et là, dans ces sentiments mélangés, ce qui montait en moi, c'était comme une source d'une espérance puissante.